quatrième et dernier volet de nos interviews ici à la Maison des auteurs. Nous recevons Alexandre Fontaine-Rousseau et David Turgeon. Alors, pour nous parler, et ça va être tout de suite la première question, pour nous parler du Colosse ou de la Mauvaise Tête, ou en fait on se rend compte qu'on ne sait pas très bien. Et c'est un peu la première question, c'est nous expliquer un peu quelles sont ces maisons d'édition, comment elles sont nées, où est-ce qu'elles sont nées, dans quel contexte, qui vous êtes, depuis quand vous bossez, et voilà un peu la genèse de tout ça.
Ça fait une longue question.
Alors, question, et tu as une bonne heure là, et rien que ça, donc prends ton temps.
D'accord, je vais commencer par l'enfance. Non, en fait, pour faire, disons, une histoire courte, parce que c'est pas si compliqué, en fait, Colosse au départ, c'est un, c'est disons une petite, appelons ça un petit label, parce que c'est pas vraiment... tout à fait un éditeur. Donc une petite collection qui a été créée par Jimmy Beaulieu à la base, l'auteur Jimmy Beaulieu qui à l'époque était aussi éditeur de la collection Mécanique Générale. Et au départ, c'était finalement une manière de faire des petits fanzines à côté, surtout pour présenter dans les salons, dans les événements, comme une sorte de petit extra finalement de comics qui ne sont pas disponibles spécifiquement en librairie ou seulement chez certains libraires qui prennent des consignes, des choses comme ça. Et bon, éventuellement, Jimmy Beaulieu, pour diverses raisons, a quitté Mécanique Générale. Donc ça, c'est autour de 2007. Et à ce moment-là, Colosse a pris, disons, une autre forme qui est devenue la nouvelle collection Colosse par opposition à ce qui est maintenant l'ancienne. Et avec une numérotation donc, qui est repartie à zéro. Donc, et à ce moment-là, la collection est tout simplement ouverte à d'autres formats. Plutôt des petits livres, parfois en couleur, parfois en noir et blanc. Mais aussi, sans s'empêcher quand même de faire des petits brochures. Et même, dans certains cas, des trucs plus récents, même des photocopiés, des trucs donc de diverses qualités d'impression, à chaque fois en cherchant ce qui s'adapte le mieux au projet. Donc, grosso modo, c'est ça, Colosse. Donc, c'est vraiment très informel. En réalité, d'un point de vue fonctionnel, c'est de l'auto-édition fédérée. Donc, c'est chaque auteur édite ses propres livres, avec une certaine, supervision vague et globale de l'ensemble par certains, dont Jimmy, dont Vincent Giard et moi-même.
C'est donc lié pour qui ce contrôle possible ? C'est lié à un lieu ? C'est lié à... c'est lié à Montréal, mais est-ce que c'est lié à l'atelier ou à d'autres choses?
C'est pas lié à grand-chose, donc c'est lié à des affinités, à un groupe de personnes qui a un peu pris sa source finalement dans l'ancienne écurie Mécanique Générale, mais qui a évolué. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui en fait font partie de... ont étudié, disons, à l'atelier de bande dessinée de Jimmy Beaulieu, dont Vincent Giard, Julie Delporte, Sviane aussi est passé par là. Il y a plusieurs auteurs québécois donc, qui sont passés par là. Ça a été quand même un élément fédérateur pour les auteurs. Et aussi, par exemple, Sophie Bédard, qui est une jeune auteure qu'on a publiée chez Colosse aussi. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est un truc très... Donc, c'est assez informel à la base, mais évidemment, on essaie de lui donner une apparence un peu plus... un peu plus formel, parce que évidemment le fait de pouvoir agir un peu comme un éditeur sous certains aspects, ça nous permet aussi de rassembler nos forces. Par exemple, justement, Angoulême, d'avoir un stand unifié, d'être présent à certains événements, etc., sous une bannière commune. Et puis, bon, on est quand même à la base, on est des amis, des collègues, donc c'est tout simplement un regroupement naturel, il n'y a pas vraiment de règles au-delà de ça. Ce qui est en train d'arriver, par contre, c'est que là, on s'étend un peu, parce qu'à force de rencontrer des gens, là, il y a des gens qui souhaitent s'associer à ça. Donc, comme ça qu'on a eu, par exemple, Nisso et Marie-Sor qui ont décidé de faire une série chez nous. Alice Lorenzi, bah, c'est parce que en fait, c'est un peu moi qui lui ai tordu le bras parce que j'avais vraiment envie de faire un livre de dessin. Donc c'était un peu une expérience éditoriale de ma part, de sa part aussi. Bref, c'est un peu de tout ça. Et pour terminer la question... Colosse, comme on voit, c'est assez bizarre. Mais La Mauvaise Tête, donc, en fait, c'est là, on est vraiment dans une structure d'édition plus simple. C'est une entreprise qui a été lancée cette année, l'année dernière, mais bon, qui va publier ses premiers livres cette année et qui est dirigée par Vincent Giard et Sébastien Trahan. Bon, et moi, bon, je collabore un petit peu dans les marges. Mais bref, c'est, là, on est vraiment dans une vraie maison d'édition. Diffusé par un vrai diffuseur et quelque chose de bien, bien classique.
Alors nous, par rapport, par rapport au Festival d'Angoulême, vous êtes le seul stand montréalais ou québécois qui est présent, si je me trompe pas.
Non, bah, en fait, la pastèque est présente aussi.
Ah oui, là aussi, oui. La pastèque. Mais alors la question, c'était, est-ce que pour ce qui est de la bande dessinée alternative à Montréal, est-ce que vous avez le sentiment de couvrir un peu ou juste le Colosse, La Mauvaise Tête, c'est juste une fenêtre sur le milieu montréalais, parce qu'on regarde Jimmy Beaulieu, Vincent Gers, c'est quand même... Enfin, on a beaucoup de travail, de travaux différents dans votre catalogue. Est-ce que c'est... Vous éparpillez un petit peu, enfin, ça couvre un peu tout le milieu ou pas?
Je pense pas qu'on essaie de couvrir vraiment un milieu, parce que mine de rien, c'est assez large ce qui se fait en bande dessinée montréalaise, ne serait-ce que... Bah, ne serait-ce que de toute façon, il y a aussi toute une scène qui est peut-être un peu plus bande dessinée, soi-disant populaire. Beaucoup de dessinateurs qui travaillent aussi pour des éditeurs français notamment, mais aussi certains éditeurs qui font des choses quand même à vocation plus populaire, plus grand public. Je dirais que en fait, non, il n'y a pas vraiment de volonté de couvrir quoi que ce soit. Sinon,
non, c'est pas une volonté, ce serait plutôt une sorte d'état des lieux.
État des lieux, je dirais que, disons que entre Colosse, entre La Pastèque, entre aussi un éditeur comme Pow Pow, La Mauvaise Tête, c'est sûr que après ce qui reste, je dirais pas des miettes, parce qu'en fait, on a sûrement des gens extraordinaires qu'on ne connaît pas et qui n'attendent qu'à sortir de l'ombre. Mais j'avoue qu'il n'y a pas énormément d'autres éditeurs, disons, d'importance. Mais évidemment, il y a des gens qui font leur propre truc. Il y a des auteurs comme Iris, par exemple, qui ont une pratique du fanzine de leur côté. Il y a toute une, j'appellerais une ancienne génération aussi de fanzineux, comme Cyrus, comme Richard Suicide, etc., qui continuent à faire des choses aussi, comme Simon Bossé, etc. Donc,
comment s'est fait la passation, la continuité entre cette génération plutôt des années 90 ou des mecs comme Valium, qu'on n'a pas encore évoqué, mais
oui,
votre génération à vous, est-ce qu'il y a, vous rencontrez, il y a quelque chose comme une culture en opposition à ou dans la continuité à?
Je pense que c'est un peu ni un ni l'autre, en fait. Il n'y a pas d'opposition parce que ce sont des gens qu'on respecte beaucoup. Mais je pense en fait que ce sont des gens qui se sont retrouvés un peu isolés et sans descendance directe. Et enfin, là c'est vraiment mon sentiment, mais moi c'est vraiment sous la... Je me sens plutôt, descendant entre guillemets des efforts de Jimmy Beaulieu, de Mécanique Générale, où là je pense qu'il s'est vraiment formé une suite générationnelle et qu'on continue en fait à voir, parce qu'avec Colosse on travaille avec des gens qui sont dans la jeune vingtaine et qui commencent tout juste. On travaille finalement avec aussi avec des gens qui ont plus de bouteilles, mais j'ai l'impression que là on est un peu plus dans un flux, disons, de génération qu'on n'avait pas, en fait, que je ne ressentais pas auparavant. C'est-à-dire que quand on parle justement de Valium, de Richard Suicide, etc., ce n'est pas nécessairement une génération à laquelle je m'identifierais d'emblée. J'ai l'impression que les enjeux étaient assez différents pour eux aussi. Et qu'en fait, je dirais qu'ils ont probablement eu la vie plus dure que nous aussi, d'un certain point de vue. Ce n'est pas autant d'opportunités de leur côté, donc c'est plutôt guérilla. Comme façon de faire, comme façon d'éditer. Alors que je pense que nous, dans un certain sens, on profite aussi de ce défrichage qu'ils ont fait.
Ce qui est assez neuf, j'ai l'impression, c'est qu'il y a un aspect plus collaboratif dans cette jeune génération. Donc en effet, c'est des gens qui sont plutôt dans la vingtaine, alors que le fanzine punk, ou plutôt qui s'est construit dans la foulée de l'association, donc début de Nantes, était plutôt au coup par coup des collaborations, mais plutôt une série d'individus qui essayaient de trouver leur place dans un marché minuscule.
Oui, puis bon, qui trouvaient leur place dans un petit réseau de libraires, d'événements ciblés, etc. Et puis qui, bon, allaient se promener aussi probablement d'un événement à l'autre, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Disons que c'était aussi une sorte de petite internationale qui se faisait, je pense, dans les années 90, avec beaucoup de petits éditeurs, et eux se trouvaient là-dedans. Donc, c'est ce qui fait en fait que vous les connaissez. Et, finalement, ils ont quand même pas mal voyagé. Mais c'est ça, donc continuité. Mais de toute façon, si on veut revenir plus loin en arrière, de toute façon, même dans la bande dessinée québécoise, je pense que c'est un peu une hypothèse qu'on peut avancer, c'est que ça a longtemps été une longue série de débuts avortés, de petites groupe de gens avec beaucoup d'ambition, d'enthousiasme en tout cas, qui font ce qu'ils peuvent et qui éventuellement perdent l'énergie, perdent l'espoir. Et bon, que 5 ans plus tard, hop, il y a une nouvelle bande de personnes qui repartent, mais toujours un peu de zéro parce qu'il n'y avait jamais rien et jamais de pérennité. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Donc,
qu'est-ce qui change la donne pour cette petite génération-ci ? Qu'est-ce qui... un état d'esprit, Internet ?
Je ne sais pas. Il y a peut-être une plus grande masse critique d'auteurs, déjà. Il y a des opportunités éditoriales qui n'existaient pas avant. Le fait de pouvoir faire vraiment des livres qui soient présents en librairie, que certains d'entre eux même soient des succès. Donc, mine de rien, des trucs comme justement la série des Paul de Michel Rabagliati, qu'on se sente près de ça ou non esthétiquement, ça reste que c'est quand même un moteur, c'est une locomotive. Et mine de rien, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même, à côté de ces opportunités, il y a quand même beaucoup de place. C'est sûr que ça ne sera jamais des ventes faramineuses parce que c'est un tout petit marché, c'est 7 millions d'habitants, le Québec. Autrement, ah, maintenant c'est 8 millions, pardon. Mais autrement, il y a quand même de la place pour des auteurs pour dire bon, ben voilà, je suis ambitieux, j'ai fait un livre, je vais le faire publier. Et il y a des éditeurs maintenant, des éditeurs littéraires même, qui cherchent à ouvrir des collections de bandes dessinées. Ça fait 2 ou 3 dont j'entends parler. Des éditeurs de littérature québécois et qui font comme « Ah oui, nous, on aimerait bien lancer une collection de bandes dessinées, nous aussi. » Et puis, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils comptent trouver leur public, mais pas leur public, mais leurs auteurs, parce que bon, j'ai l'impression de connaître un peu la plupart des auteurs intéressants, mais bon, je me demande qu'à être surpris. Montréal reste petit quand même. Donc... Mais bon, après, je souhaite être surpris. En fait, je le suis constamment. Dès qu'on a des nouveaux auteurs qui arrivent et qu'on connaît, qu'on rencontre, qu'on découvre.
Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des 48 heures de Montréal, qui est un événement qui se produit une fois par an et donc qui aboutit à un journal qui est en plus sélectionné cette année à Angoulême ? Est-ce que vous pourriez un peu expliquer
Oui, les 48 heures à la base, c'est un peu un gag sur les 24 heures, évidemment. Je pense que c'est un événement qui est né un peu en réaction au principe des 24 heures, qui est quand même un événement performance qui demande beaucoup, très marathon. Où là, on s'est dit plutôt que de finalement suivre à l'ouvrage, faire une bande dessinée, quand même quelque chose d'assez exigeant en très peu de temps. Pourquoi ne pas prendre plutôt notre temps, faire un journal collectif, prendre plutôt donc notre temps pour faire une page, deux pages, quelque chose d'un peu plus, disons, petit peu plus travailler et aussi avoir le temps finalement d'échanger avec les autres invités parce que le truc, c'est que nous, on avait fait une première édition donc, de 24 heures à Montréal. On avait invité des auteurs étrangers, etc. Mais finalement, bon, ils étaient venus, ils faisaient leur truc. Et puis après, tout le monde est trop crevé. Les gens repartent. Donc, on a comme l'impression que finalement, personne n'a vraiment eu le temps de se voir, de se parler. Donc, les 48 heures, bah, c'est le but est la production d'un journal qui est distribué gratuitement à 5000 exemplaires. Gratuitement à Montréal. Ici, bon, comme on n'en a pas des tonnes à Angoulême, on demande un tout petit petite contribution, on les donne avec achat, mais autrement, c'est quand même le but, c'est de pouvoir quand même les disséminer autant que possible. Et bah, c'est ça, donc on en fait un événement qui est à la fois privé, donc qui est la création, et à la fois public, avec un volet public, qui est donc bon, lancement des tables rondes, match d'impro, bon, et puis généralement c'est la fête, et puis on profite pour s'amuser, passer du temps ensemble. Donc je pense que c'est un peu la formule qui sert à changer un peu la donne, mais tout en restant un événement performatif, donc quand même dans la lignée des 24 heures.
Ok. Alors on a ici sur la table toute une série de productions qui sont issues de Colosse principalement. On a, alors, en effet, tu parlais tout à l'heure d'une diversité de productions. On trouve là des choses qui sont agrafées. On a aussi des docarés collés. On a des choses qui sont un peu plus littéraires. On a des choses qui sont vraiment de l'ordre de bande dessinée expérimentale. On a des choses qui sont plus classiques dans leur forme. Les raisons que tu les as expliquées, c'est que c'est une forme de fédération, Colosse, plutôt qu'une maison d'édition avec un groupe éditorial formaté et une ligne. Est-ce qu'il y a il y a quelques bouquins, notamment les tiens, qui sont assez étonnants parce que il y a dans ton travail en général, on va parler à la fois, puisqu'on peut pas parler d'une ligne éditoriale en tant que telle, on va parler directement de livres en particulier. Mmh. Alors dans ton boulot que je suis un peu à travers tes collaborations avec Gérard ou le bouquin que tu fais pour toi-même, il y a une espèce de quelque chose d'assez récurrent, d'une part un aspect expérimental. Et d'autre part, quelque chose qui est frénétique dans la production. Tu as quelqu'un qui dessine visiblement soit très vite, soit qui a envie d'axer sur une production très rapide. Il y a une raison spécifique pour ça. Ici, j'ai le salon du livre qui a une série de courtes planches avec chaque fois les dates énoncées en dessous. Donc l'idée de travail au long cours est assez évoquée. Et on a quelque chose qui est très itératif, pour reprendre des mots propres à l'esthétique de la bande dessinée. C'est quoi ce projet spécifique, par exemple, Salon du Livre ?
Salon du Livre, ça c'est... En fait, c'est un truc que j'avais commencé dans le cadre d'un... C'était un petit événement où on avait monté un fanzine collectif à 6. Bon, encore une fois, c'était un autre événement performatif, pas les 24 heures, mais c'était un peu... on s'était fait un peu une sorte de mini 8 heures, je pense, pour... dans une librairie à Montréal pour monter un fanzine. Je crois que c'était dans le cadre de Journée mondiale du droit d'auteur, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait eu un prétexte. Donc j'avais ces planches-là, et qui étaient donc un peu sur un thème littéraire, sur le livre, sur l'auteur et son livre, mais sur aussi les autres acteurs, et qui étaient finalement un peu des disons, du gag. Mais du gag, bon, un peu... peut-être un peu désespéré, je sais pas. Donc il y a un côté un peu désabusé par rapport à ça, mais en même temps pas trop, je sais pas. Mais bref, donc je me suis dit, tiens, c'est amusant comme série, je vais continuer, je vais faire une trentaine de pages et puis j'en ferai un petit livre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la première version, j'en ai fait 50 exemplaires. Comme ça a quand même bien marché, ça s'est vendu assez vite. Bon, là j'en ai fait une deuxième qui était à 200, mm-hmm. Pour donner une idée de toute façon du genre de tirage qu'on fait chez Colosse. C'est ça. Donc l'idée, c'était aussi de jouer avec un certain type de format, avec un certain type de design, de présentation, de mise en page, Moi, quand je fais des livres, j'aime bien travailler l'objet livre et j'aime bien pas trop m'ennuyer aussi, faire des trucs qui se ressemblent pas d'un à l'autre. Bah, probablement surtout avec mes livres à moi, parce que bon, ça reste un laboratoire, Colosse. Oui. Ça sert vraiment à ça, ça sert à essayer des trucs puis à s'amuser. Et puis moi, je me dis, bon, bah, tant qu'à faire un livre, on va essayer de faire un truc qui ressemble pas trop à ce que d'autres font déjà, ou en tout cas qui a une esthétique.
Et dans cette esthétique, le côté rough du dessin jeté, parce que tu aurais pu, par exemple, tu as parlé d'un truc qui a été fait à l'occasion d'une session de travail,
oui.
Tu aurais pu le reprendre et redessiner entièrement les planches, par exemple.
Oui, c'est vrai, mais je pense que pour ce livre-là, c'était pas pertinent. C'était, bon, après, je sais que c'est un peu une... C'est un truc qui est que j'ai, c'est que j'aime bien faire les choses rapidement et je pense que je suis un peu impatient dans ma manière de travailler. Donc oui, dans le cas présent, je me suis dit plutôt que de passer du temps à retravailler, à essayer de faire quelque chose de propre, je vais plutôt faire beaucoup de planches et que ce soit qu'il y ait du contenu. Donc il y a un peu de ça en fait. C'est la manière de travailler en général. Il y a peut-être qu'avec les pièces détachées que je fais avec Vincent, où là on est dans une logique un peu différente, mais là c'est justement parce que je ne me donne pas non plus ça comme règle absolue.
Donc on a justement, par exemple, qui est fort différent au point de vue de l'objet, le Pinkerton, qui là est fait plus livre classique, entre guillemets, album classique, et qui se présente comme un beau petit objet, un beau petit bouquin, qui évoque, dont le titre évoque le nom d'un album de Weezer. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous parler un peu de ce projet, enfin de cet album-là?
C'est le fruit de mes entrailles. En fait, c'est le fruit d'une rupture. Je me suis fait domper, puis là, j'ai décidé que j'avais ce très petit synopsis qui traînait de deux gars qui essayent de passer par-dessus un album de leur adolescence. Puis moi puis François, on pitchait cette idée-là un peu. C'était comme un running gag qu'on entretenait depuis un an, deux ans peut-être même. Puis là, ben, ça a été comme le moment déclencheur. Puis j'ai écrit le scénario en deux semaines à peu près. Ça faisait 60 pages manuscrites. Puis là, j'ai dit à François, faut qu'on ait sorti ça pour Exposine, qui était dans trois mois. Fait que ça lui donnait pas beaucoup. C'est une masse relativement volumineuse compte tenu du temps qu'il a pris à faire.
C'est combien de pages?
160, 170.
Oui.
Puis c'est ça, ben, moi, je viens pas exactement de la bande dessinée. Là. Je suis un satellite de l'univers Colosse, un peu. Là. Je me tiens, là. Puis je veux dire, je scénarise pour François depuis un bout de temps. Puis là, ben, ça faisait longtemps que je voulais faire un livre, mais j'écris, je suis critique, puis je suis plus scénariste. Je veux dire, j'ai pas tant que ça une pensée de la bande dessinée. Là. Je veux dire, c'est pas un livre qui vient de... Tant que ça, je pense du milieu de la bande dessinée. Là, je pense que c'est plus...
C'est ce qui fait souvent des choses très intéressantes. Par exemple, une démarche, comme on a parlé dans une émission précédente, de Nobro, qui a pour objectif de prendre des auteurs qui ne sont... Enfin, des artistes qui ne sont pas de la BD, qui viendraient de l'illustration ou d'autres milieux, et de leur dire « faites de la BD pour voir ce que ça donne », parce que c'est ce qui finalement génère... Enfin, qui permet de renouveler aussi le médium, c'est d'avoir des gens qui sont d'un autre milieu et qui vont se frotter au médium, le découvrir et ne pas être limité comme d'autres pourraient être limités, puisqu'effectivement, à force, si on a lu toute sa vie des BD, on a accumulé un certain nombre de codes qu'il faut, avec lesquels il faut se battre pour réussir à les dépasser ou à repenser la bande dessinée différemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des gens qui ne viennent pas de la BD et qui font de la BD, parce que ça crée un souffle. Et c'est vrai que le pitch est vraiment bien, puisque c'est effectivement ces deux personnages qui... Donc, comme il l'explique, comme il essaye de faire les 12 travaux d'Astérix, donc doivent réussir à dépasser chacun des morceaux.
En fait, ce qui était intéressant avec ça, c'est qu'on avait déjà la forme du livre un peu avant même d'avoir le livre. Chaque chapitre allait être une pièce par-dessus laquelle il allait passer. Fait que, quand je ne savais plus exactement où le scénario s'en allait, je retournais à l'album, puis je me disais, bon, ben cette toune-là, elle parle de quoi? Puis, ah, ben comment je vais réussir à faire un chapitre autour de ça? Puis...
Un rapport de contrainte.
Oui, oui, c'est ça. C'était une contrainte d'écriture qui était finalement assez stimulante. Là. Puis, mais c'est ça. Mais les personnages existent depuis un certain temps. François, avec... En fait, cette série de, dans un, pendant un certain temps, François faisait juste retranscrire des conversations qu'on avait sur Internet. Puis le lendemain, je regardais son blog, puis je voyais qu'il avait utilisé mot pour mot des choses que je lui avais écrites. Là, je lui ai dit, à un moment donné, au lieu de juste me citer hors d'abuser de moi ainsi, est-ce que tu me donnerais le droit d'être scénariste de ma propre présentation? Puis ben, à partir d'un certain point, c'est devenu un peu plus... Mais c'est essentiellement les deux personnages, c'est François et moi. Sauf qu'à partir d'un certain point, c'est devenu moi qui écrivais le personnage de François aussi. Fait que, dans le fond, j'ai rendu la monnaie de sa pièce d'une certaine manière. Je lui ai volé son identité. Les personnages sont jamais nommés, ce que je trouve quand même amusant dans un livre de 170 pages. Il n'y a aucun personnage nommé. Fait que la première critique que j'ai lue du livre, la première critique que j'ai entendue, c'était à quelqu'un à la radio qui disait « Alors, personnage aux cheveux foncés parle à personnage aux cheveux blonds » parce qu'il y avait...
Oui, c'est une des capacités, d'ailleurs, de la bande dessinée qui est assez intéressante aussi, c'est qu'effectivement, on peut se passer...
De prénom,
puisque souvent...
Là, ils sont totalement inutiles.
On doit décrire... Ou bien on utilise juste l'homme s'en va, mais c'est assez rare, effectivement, en bande dessinée, on peut se le permettre, qui est assez particulier à la bande dessinée.
C'est d'ailleurs presque un trait de la bande dessinée indépendante que d'avoir mis en place des personnes qui ne se nomment jamais. Je me faisais la réflexion à titre d'auteur dernièrement, et je le faisais parce que je dois régulièrement pitcher ou écrire des argumentaires pour des bouquins qu'on produit à l'employé du mois. Et parfois, je dois y regarder. Il y a parfois un endroit où un prénom est donné, et parfois même pas. Donc tu reconsultes le bouquin, alors tu dois dire pitcher en disant un jeune homme, etc. Donc ça pose des problèmes logistiques, en fait.
Dans les choses plus universelles.
Oui, ça, on revient sur le côté iconique de Scott McCloud associé à la bande dessinée que je voyais Hergé dernièrement dans une interview des années 70 dans laquelle il disait, voilà, Tintin, c'est un dessin stupide, c'est un rond avec deux petits traits et c'est pour ça que tout le monde peut s'identifier à lui, disait-il. Donc on a ce côté-là aussi. D'ailleurs, en parlant ça, toi... Tu as aussi une activité, parce qu'on venait de parler de ton activité de... Toi, qui es d'une activité de critique, tu disais, parce qu'on a peu parlé de ton parcours à toi. Oui, reprends le micro.
Donc... Mais je suis critique de cinéma et non critique de... J'ai pas vraiment... Mais ça fait depuis 2005-2006 que j'écris. Le dernier livre de Jimmy, qui est une série d'illustrations sur le thème du giallo, c'est moi qui lui avais fait une commande pour un livre sur le thème du giallo. Mm-hmm. Finalement, ça l'avait tellement emballé qu'il avait décidé de continuer dans cette piste-là, puis il en a tiré son propre livre, là. Mais c'est ça, en gros, je viens du cinéma, puis je pense que ça paraît. J'ai aussi fait de la critique de musique, en fait. On a aussi un fanzine qui s'appelle Le Tout va bien à Montréal, dans lequel on essaie de mélanger la critique de musique et la bande dessinée. On invite de temps en temps des auteurs. Là. Je pense à Julie Delporte et Vincent qui a fait des illustrations. David n'a jamais voulu se prêter au jeu ou a toujours inventé des excuses pour ne pas participer à un Tout va bien, mais je réitère l'invitation ici même. mais bon, c'est ça.
Mais donc, chez David, toi aussi, il y a un aspect de ton travail qui a un aspect critique. Est-ce que c'est quelque chose qui est... important dans ton boulot, parce qu'il y a le côté expérimental, vient-il du fait que tu es toi-même en regard critique par rapport à la bande dessinée?
Peut-être. Je sais pas. Je suppose que oui, mais c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. En même temps, c'est de la réflexion forcément, puisque c'est dans la critique ou dans l'expérimentation, on est oui dans la réflexion, mais est-ce que cette réflexion est réfléchie, je ne sais pas.
Participe à Du Neuf depuis combien de temps en fait?
Oh là là, je pense que mon premier article date de 2006 peut-être. J'ai pas écrit énormément d'articles, mais bon, de manière, disons que j'essaie de leur refiler quelques-uns à chaque année. J'aimerais être plus assidu, mais ça demande quand même beaucoup de temps à écrire ces textes-là. Surtout que de manière générale, j'ai beaucoup de mal à faire vraiment des critiques, des chroniques d'albums ou de livres. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais j'ai de la difficulté de trouver comment en parler. Ça arrive une fois de temps en temps, mais de façon plus générale, je ne sais pas, je vais plus m'intéresser à un sujet ou à un auteur en particulier. Et essayer de creuser, de voir un peu d'en trouver un peu la poétique finalement d'un auteur en particulier, souvent, surtout quand c'est un auteur qui m'intéresse, et de voir un peu comment on peut les lire, surtout quand ce sont des auteurs qui ne sont pas nécessairement évidents ou pour lesquels, disons, on a plus souvent une lecture univoque. Je pense particulièrement à Machereau, sur qui j'ai fait un texte qui m'a amené assez loin d'une certaine mesure, parce que j'en entends parler encore aujourd'hui. J'ai fait un texte sur Fmur aussi, qui m'a en fait un peu obligé à je dirais même me cultiver moi-même, parce que finalement je me rendais compte que c'était un espèce d'échevaux de références, de citations littéraires énormes et quasi infinies qui est dans cette œuvre-là, donc de Fmur, et donc juste d'aller démêler ça, c'était passionnant de le faire. Mais donc c'est quand je suis capable d'entrer dans un travail comme ça, ça peut me prendre plusieurs mois pour boucler un article. Et finalement, oui, une fois que c'est fait, ça me sert. Ça fait avancer les choses. Est-ce que ça me... En même temps, je me méfie un peu de ce qui est la théorie, disons la théorie qui servirait à faire une œuvre ou l'œuvre servant à tester une théorie. Non, ben, je le dis parce que souvent, c'est un peu le danger quand on mêle théorie et création. Mais bon, je garde toujours à l'esprit le mot de Paul Klee, qui est l'œuvre consacre l'échec de toute théorie. Et j'en fais un peu ma devise personnelle. Je fais aussi de la critique en pensant, en gardant cette devise en tête.
À mon avis, c'est plutôt l'émanation d'une même énergie, puisque tu as un travail d'éditeur, d'auteur et de critique, toutes trois trouvant une place dans le monde public, puisque ta critique est publiée, tu pourrais la faire pour toi-même ou dans les salons.
Oui, en fait, je dirais que pour moi, c'est un travail d'écriture qui prend plusieurs formes. Même le dessin, pour moi, c'est peut-être plus une écriture qu'une technique de dessin, donc de dessinateur. Je vois peut-être moins de manière plastique que certains, quoique évidemment c'est plastique, c'est travail dans l'espace. Mais donc je vois ça comme de l'écriture. Et bon, après, ça prend la forme que ça prend. Et un jour, on a plutôt envie de travailler un essai. D'autres jours, on a plutôt envie d'écrire une fiction, envie de dessiner, envie de faire un truc de telle ou telle forme, un truc court, un truc long. Tout va avec les opportunités aussi, des fois. Mais de façon générale, Alexandre me le faisait savoir, j'avoue que quand j'ai des opportunités, souvent je les utilise pas trop parce que faire des trucs sur commande, j'ai souvent beaucoup de mal.
Vu que vous n'êtes pas, le Colosse n'est pas vraiment une maison d'édition, vous êtes porteur de pan du projet, du pan d'autres boulots, par exemple, si on te demandait maintenant ici de dire quels sont les boulots remarquables dans les travaux qui sont sur la table ici, est-ce que tu le fais avec déplaisir,
Non, en fait, moi, je trouve que tout ce qu'on a publié, en tout cas récemment, dans la dernière année, est vraiment très bien. Et ce sont des livres que j'aime beaucoup et que j'aime défendre. Évidemment, il y a des plaisirs d'éditeur, comme le fait d'avoir fait le livre d'Alice Lorenzi, qui est un livre de dessin, qui est quand même quelque chose d'assez ingrat et peut-être à la limite de l'invendable, d'une certaine manière. Et qui, en même temps, était quelque chose que je tenais à faire. Et là, pour le coup, c'est un peu, disons que je l'ai peut-être un peu plus piloté, alors que bon, souvent on laisse les auteurs piloter leur propre projet. Mais là, j'ai vraiment demandé à Alice, bon, envoie-moi des dessins et on fait un truc avec ça. Et je pense que travailler finalement cette forme-là, forme du dessin, mais pas le dessin comme portfolio, mais le dessin un peu comme une sorte d'équivalent de poème finalement, parce qu'un livre de dessin comme ça, l'équivalent que j'y trouve, c'est plutôt comme une collection de poèmes qu'un portfolio. C'est pas bon, on vous montre des dessins comme ça arbitrairement, on ouvre le
oui, c'est pas un carnet
de cookies. Book d'Alice, c'est vraiment bon, on entre dans un univers un certain temps et après on en ressort. C'est un type de livre en fait qu'on a pu voir par exemple certains travaux de Bloch, comme par exemple La Beauté, ou même il y avait des livres de Sempé qui étaient un peu comme ça, comme Les Musiciens par exemple, qui sont des dessins qui sont pas spécifiquement comiques mais qui ont quand même qui dégagent quelque chose, qui ont une unité.
Mais c'est un peu le cas aussi de Brousse et de
oui.
Et du Wagon Engourdi de Vincent Gire, qui sont aussi des recueils de dessins que moi je trouve assez, vraiment atypiques et vraiment déroutants. Enfin, ou comme ton jardin botanique.
Oui. Bah c'est ça. C'est un peu de travailler sur la forme du dessin, disons de s'éloigner le plus possible de quelque chose qui soit strictement de la fiction ou du récit. Pas toujours, mais enfin, disons d'ouvrir cette porte-là aussi, en plus de d'autres portes. Bon, Brousse, c'est aussi un recueil de dessins. C'est un jeu de ping-pong entre Vincent Giard et Saint-Jean, qui a donné lieu donc à ce premier fascicule. C'est aussi un travail que j'admire. Moi, c'est parce que c'est un type de toute façon, c'est un type de dessin moi qui m'est mystérieux, étranger,
c'est fascinant.
Absolument. Et de même avec son petit livre Le Wagon Engourdi, mais qui en fait est, oui, a un aspect dessin, mais qui en fait est aussi un récit, parce qu'il peut se lire de façon séquentielle, mais avec quand même des interruptions, avec des espèces de petits poèmes en une ligne finalement que fait Vincent sur le bord des pages. Donc il y a ça. Jardin botanique, c'est un livre abstrait que j'ai fait, mais encore une fois, j'en parlais avec quelqu'un hier, mais c'était... moi, j'appelle ça plutôt une bande dessinée automatique, parce que ce qu'on entend souvent par bande dessinée abstraite, c'est souvent un truc comme par exemple Bleu de Louis Trondheim, ou des trucs qui sont finalement pas tant abstraits qu'extrêmement schématiques, donc avec des éléments... bon, à la limite du reconnaissable, mais où il y a quand même un récit, parce qu'on a beaucoup de difficultés en bande dessinée à se détacher de la notion de récit.
Il y a des trucs de François Ayrol aussi qui sont plus abstraits, parce que plutôt du côté de l'analyse ou de...
Oui. Et évidemment, comme il y a une succession de cases, souvent on a beaucoup de mal à se détacher du récit en général, ou de l'idée de récit. Et donc, moi, c'était un essai finalement de dire non, je vais essayer de faire absolument aucun récit qui est qu'une succession de choses et de voir ce qui reste. Donc à ce moment-là, ce qui reste, c'est souvent plutôt de l'ordre du rythme, de l'ordre de... Oui, du rythme, donc d'une sorte de discours sans contenu autre que ça. Donc il est peut-être plus de l'ordre de la musique, je ne sais pas. C'est...
Il y a aussi ce livre étrange dont je ne connais pas le nom, que j'ai feuilleté hier, qui est...
C'est Iceberg.
C'est un autre qui est en fait une expérience qui a été débutée, je crois, lors de vos événements. C'est un récit qui est redessiné et qui, à un moment donné, disparaît au fur et à mesure des pages. Ça commence...
Oui, cinéma. C'est passé à train. Oui. Ben, ça, c'est une expérience assez intéressante aussi, mais... je dirais, pour la décrire rapidement plus sur un mode conceptuel, mais finalement, c'est que Sébastien a commencé par calquer un livre qui est 24 heures pour Doc Silva, ou un truc comme ça, un vieux livre du Lombard,
de Duval et...
plutôt oublié. Non, je pense que c'est des époux Funken, en fait, mais peu importe.
Le scénario Duval,
voilà. Enfin, bref, mais un truc qui est plus ou moins oublié aujourd'hui, et que je pense que le Lombard lui-même ne doit même plus se souvenir qu'il a édité.
Édité aux éditions Loup.
Oui, peut-être. C'est peut-être qu'il
suscite aux
éditions
Loup.
C'est le genre de choses comme ça. Bon. Et bref, lui, il avait amené ça pour dans le cadre de 24 heures. Il a utilisé ça comme matière première en calquant donc les cases. Et après, il s'est mis à effacer des éléments de plus en plus. Ce qui fait que ça devient finalement l'histoire d'une série de disparitions, mais qui au départ sont peut-être des disparitions à l'intérieur du récit, mais qui deviennent des disparitions dans la matière même donc de la bande dessinée. Ce qui fait qu'à la fin, ça finit par une page blanche, mais avant ça, bon, les personnages disparaissent, les paroles disparaissent, les chevaux.
Les chevaux à un moment.
Les cheveux.
Ça devient quelque chose de très inquiétant, parce que finalement, c'est... c'est un peu une sorte de désagrégement inéluctable.
C'est un bouquin assez étonnant parce qu'il il démarre au début, on a la tentation, de, comme tu le disais à l'instant, de lire le récit, d'être pris par le truc, et puis à un moment donné, les manquements deviennent de plus en plus forts. Donc on s'accroche au récit, puis à un moment donné, on est obligé d'en décrocher et de n'être plus que dans la matière de l'image et de comprendre qu'on doit faire le deuil de savoir ce qui arrive à ce type dont on s'était vaguement épris par la magie de la narration, et qu'il faut laisser faire et ne plus voir que ces traits qui s'éparpillent sur la page jusqu'à la page blanche. C'est aussi assez typique parce que c'est un truc qui est très rough de nouveau, donc c'est du peintre, j'imagine que ça a été fait soit à la table lumineuse, soit au calque, de manière très rapide, donc le dessin est assez grossier, il y a certaines choses qui nous échappent même, il y a des bagarres dans lesquels on ne comprend pas très bien qui casse la gueule à qui, et parce qu'il y a une méthode qui est un peu légère, et normalement, sur ici, on pourrait dire, tiens, ça devrait être l'ébauche d'un récit équivalent, et en fait, non, c'est la chose elle-même, elle a été faite, elle est publiée, elle existe en tant qu'objet, et puis, voilà, elle a une étape et pas l'ébauche d'un meilleur projet qui se ferait.
Oui, en effet, c'est le produit fini, pourrait-on dire, c'est... Enfin, disons que c'est une qualité qu'on... Enfin, moi en tout cas, qui m'intéresse, qui me touche, souvent davantage que justement des projets plus léchés, plus finis. Il y a cet aspect-là de rough, d'un peu d'idées plus brutes. Et là, oui, on est vraiment plus... tout particulièrement avec ce livre, on est vraiment dans on est dans l'idée. On est dans l'exploration d'une idée. Qui est finalement une disparition globale des choses.
Oui. Il y avait un autre récit dont vous vouliez parler, qui est ce magnifique récit fait avec des pages de carnet dessinées et déchirées.
Déchirées, oui, même pas dessinées, je crois que tout est déchiré en fait.
Oui, il n'y a pas de dessin.
Et qui se passe sur la banquise, qui est entièrement muet, fait effectivement où ce sont des éléments déchirés qui nous laissent apparaître un esquimau sur la banquise, un avion qui passe dans le ciel, toute une série d'éléments qui sont un peu mystérieux ou qui semblent un peu décousus et qui petit à petit prennent un lien, surtout quand on va découvrir à la fin du récit l'anecdote. Enfin, l'anecdote qui est une. C'est qu'une anecdote.
Qui est,
disons, un événement absolument dramatique, une catastrophe nucléaire qui a été cachée ou qui a.
Attention, passe pas.
Oui, non, je pense pas que ça abîme le récit, parce que je trouve que quand on est dedans. Donc, qui est un bouquin absolument superbe. Et juste aussi signaler le bouquin de Jude Delporte, qui là, donc, est un. Qui est. Publié Colosse dans la collection Essai.
Et oui.
Que ça apparaît comme ça, et qui est donc un essai de Jude Delporte sur la BD réalité. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect de Colosse. C'est vraiment ce travail qui est de faire un essai sur la bande dessinée.
Bah oui, mais en fait, pour dire peut-être rapidement deux mots du livre donc de Michel Hellman qui s'appelle Iceberg. Ça c'est précisément un livre qui provient de l'atelier de Jimmy Beaulieu, donc c'était un des étudiants, donc des participants à l'atelier qui avait déjà ce projet, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très très intéressant, et on l'a donc poussé à en faire un livre, l'encourager à faire un livre, et donc c'est un peu ça aussi Colosse, finalement, c'est de prendre d'aller trouver des auteurs qui ont un début de pratique et de les accompagner autant que possible pour faire finalement... parce que ça reste un livre qui est très court, ça reste un livre qui a, disons, un potentiel éditorial un peu hasardeux, a priori, mais qui se révèle, dans le cas présent, finalement un petit succès, parce que c'est un livre finalement qu'on a réédité deux fois. C'est la troisième impression du livre, donc c'est finalement un de nos grands succès, Colosse, ce qui est une très belle surprise. Donc ça, c'est le type de choses qu'on parvient à faire, un peu sans le vouloir, mais qui en fait révèle que ça reste un très bon livre, et que c'est pour ça, peut-être, qu'il a trouvé son lecteur. Mais pour donc en revenir aux essais, c'est aussi pour, je pense que c'est à la fois pour faire quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que oui, mine de rien, c'est un un très bon texte qui est très pertinent sur un sujet bon, qui n'est pas très abordé, la médiaréalité, donc grosso modo la représentation de soi donc dans le cadre d'un blog autobiographique, et parce que c'est quand même un sujet qui a un certain potentiel polémique aussi, parce que c'est un sujet qui a été... c'est un type de production qui a été attaqué, par exemple, par Fabrice Nau, par Jean-Christophe Menu, dans certains articles. C'est un peu un sujet de raillerie, mais et peut-être même... on peut même dire que c'est peut-être justifié, mais il s'agit de passer outre, finalement, cette raillerie-là, et d'y aller un peu plus... avec un peu plus de rigueur, de dire bon, en quoi ça consiste un blog finalement de manière comme genre style blog de fille, style blog aussi à la Trondheim, style blog à la Boulet, etc. Et donc de dépasser la critique facile et de dire bon, en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que ça en dérange certains, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un potentiel là-dedans. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Julie part d'un présupposé un peu critique, un peu finalement sceptique, disons, et qu'à la fin, je pense que son résultat, sa conclusion est beaucoup plus mitigée. Je pense qu'elle voit quand même un potentiel beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer dans le blog, mais qui reste un potentiel, donc quelque chose qui n'est pas tellement utilisé encore, parce que je pense que, enfin, mon impression, c'est que les auteurs sont peut-être un peu paresseux et se laissent peut-être beaucoup aller et ne se mettent pas beaucoup en question, en fait. Ça, c'est mon impression, ma lecture des choses. Mais Julie voit quand même un potentiel qui reste présent. Et c'est quand même une des choses qui est très intéressante dans son livre. Et donc, éditorialement, c'est aussi un peu pour... Dans un certain sens, c'est presque un gag énorme de dire tiens, on va faire Colosse Essai, parce que c'est comme donner une espèce de face sérieuse à un truc qui reste. Oui, voilà. Et oui, puis bon, je me suis.
Il y a aussi un livre d'entretien entre toi et Jimmy, non, qui est aussi.
Il y a ça aussi qui a été fait. En fait, c'est aussi un autre aspect de Colosse qui a été de faire des livres pour accompagner d'autres livres. Ce livre donc d'entretien avec Jimmy Beaulieu, qui était pour accompagner deux livres qu'il a fait publier l'an dernier, Comédie sentimentale pornographique chez Collection Shampoing, et À la faveur de la nuit aux impressions nouvelles, donc deux livres qui ont paru et qui sont quand même parrains. Et donc on a voulu aller un peu plus loin, publier des dessins inédits, faire un entretien, etc. Donc c'est un livre vraiment pour accompagner. On a fait de même aussi avec un livre de Marine Blandin, qui est aussi un livre paru chez Shampoing. Bon, quoi qu'on... Bizarrement, on a une affinité avec eux, on va dire, accidentelle. Mais donc qui est une auteure aussi qu'on aime beaucoup et qui était venue nous voir à Montréal. Et on a pris l'occasion pour dire, tiens, on va faire un livre de croquis et de croquis préparatoires, de notes, etc. Donc c'est un peu des livres... qui accompagnent des livres, donc qui ont peut-être une existence un peu moins autonome, mais encore une fois, on reste, je pense, dans le cadre d'un livre un peu casse-gueule qui éditorialement aurait une vie un peu hasardeuse. Et je pense que si on veut résumer Colosse, ça reste toujours ça. Ça reste un lieu pour faire des livres à petit tirage qui donc vont trouver quand même leur public. Mais une façon de les faire qui finalement ne met pas en danger une structure éditoriale, ne met pas en danger un auteur. On fait les choses dans des proportions plus petites et par pragmatisme.
Okay. C'est une belle conclusion.
On a pris, on a pris pas mal de temps pour parler des différents bouquins, mais il y en est fait plein de choses. Donc moi, je vais juste conclure en vous posant... deux petites questions. Qu'est-ce qu'il y a comme projet, on va dire, imminent dans les mois qui suivent? Ça, c'est une première chose. Et alors, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs aussi qui sont en Belgique, en France et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour trouver des bouquins du Colosse? Tu disais la mauvaise tête, là, il y a une diffusion, une distribution qui est assumée, mais les bouquins du Colosse, comment est-ce que...
En fait, Colosse, pour répondre peut-être à la deuxième question d'abord, parce que c'est le plus simple, nous, on a un site web qui est collectioncolosse.com qui donc présente les livres et d'où on peut commander. Donc c'est peut-être la façon la plus simple. Évidemment, il y a parfois certains libraires qui nous commandent des livres directement, et là, ça nous fait plaisir de leur en vendre. Mais évidemment, on ne fait pas d'efforts particuliers pour être diffusé, parce que et ça, c'est vraiment une décision qu'on a prise pour simplifier les choses et ne moins se casser la tête. Passer plus de temps à faire des livres qu'à les vendre. Donc le site web est sans doute la meilleure façon de se tenir au courant et de commander les livres subséquents, d'une part. Et donc pour ce qui est par contre du futur proche, bah, c'est sûr que là maintenant qu'on a la mauvaise tête qui est vraiment une nouvelle structure, qui là va un peu changer la donne parce que on se lance plutôt dans des projets donc à plus grand tirage, qui sont peut-être plus, disons, plus faciles à défendre. En librairie ou par des diffuseurs, par des attachés de presse. À ce moment-là, c'est un peu la prochaine étape du développement. Je parle vraiment comme un entrepreneur sans pitié. Mais bon, mine de rien, ça reste du business, l'édition. Hein. On veut bien être aussi idéaliste qu'on veut. Et grosso modo, par contre, ce qui est particulier avec la mauvaise tête, c'est qu'on veut rester, plutôt implanté au Québec pour ce qui est des opérations, du moins dans un futur proche. On a donc notre diffuseur, etc. Par contre, pour ce qui est de la diffusion hors Canada, donc hors Québec, hors Canada, là, on va plutôt essayer de faire des partenariats avec d'autres éditeurs, des éditeurs qui sont en Europe. Pour qu'ils reprennent donc les droits et reprennent les titres au catalogue, dans leur catalogue, et les défendent eux-mêmes, afin que là, la présence en sol autre, finalement, soit plus mieux assurée, à notre avis. Parce que bon, je sais que personnellement, j'ai connu avec l'épisode de Mécanique Générale qui était lié aux 400 coups, des épisodes un peu lamentables finalement de livres qui étaient expédiés par centaines en sol français, belge, etc. et qui se retrouvaient dans quelques librairies dont aucun attaché de presse ne faisait la promotion et qui finalement éventuellement se retrouvaient au pilon. Donc pour éviter ça, parce que mine de rien ça prend énormément de présence et de muscles pour nous d'être présents ici, en sol européen, c'est très dispendieux, c'est très onéreux, donc on essaie plutôt d'y aller carrément par vente de droits, donc de dire bon ben nous on croit en ces titres là et il y a sûrement un potentiel pour des éditeurs d'y croire aussi, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec un de nos premiers titres, donc le livre d'Ariane Dénommé qui s'appelle Du chez soi et qui a été repris par donc l'employé du mois qu'il a repris à son catalogue parce que bon, eux ont vu une affinité avec le travail d'Ariane, aiment beaucoup son travail, donc on voulait reprendre ce titre-là, et ça c'est quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous va très bien. C'est vraiment vers ça qu'on veut essayer d'aller. Donc ces livres-là, ce sont des livres qui vont se retrouver éventuellement, on l'espère, hein, par chez vous.
Plus facilement en librairie.
Facilement, et
bon. Sinon via le site pour ce qui est du Colosse, quoi.
Pour Colosse, bah, ça sera toujours via le site parce qu'on a fait la promesse qu'on ne grossira jamais.